sur la pensée qui est fait aujourd'hui en disant oui, ben on va mettre toutes les idées sur Internet, comme ça tout le monde aura accès à tout. Je crois qu'il y a quelque chose de faux, de biaisé dans cet argument, dans la mesure où se construire une culture, une réflexion, être capable d'avoir une distance critique face aux choses qui se passent, face aux discours politiques qu'on peut entendre, etc. Ça ne se fait pas dans l'immédiateté, ça ne se fait pas en se noyant dans une masse d'informations.
Ça se fait pas tout seul face à un écran.
Exactement. Et c'est, vous avez tout à fait raison de citer la question de l'éducation populaire, parce que contre les idées ultra-libérales et même libérales, jusqu'à un certain point libérales tout court, qui ont été mises en place historiquement par un certain nombre de dominants économiques, les mouvements d'émancipation ont bien souvent revendiqué justement l'idée d'éducation populaire, le fait de ne pas être seul face au monde, pas seul face au savoir.
Ouais, mais numérisation et éducation populaire sont compatibles.
Eh bien, justement, je crois qu'on peut pas le poser comme ça pour ne serait-ce qu'une chose, c'est qu'on nous dit oui, le numérique, c'est bien parce que ça va donner plus d'accès aux choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème de l'éducation, du savoir et même de la politique en général, c'est celui de l'accès des bibliothèques? Il y a une personne sur deux qui les fréquente en France. Le livre, c'est quelque chose avec lequel, de près ou de loin, énormément de gens ont un rapport très, très cher et très précis. Donc, je crois que ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est que ce n'est pas cette question de l'accès qui change tout. Il y a déjà beaucoup d'accès, mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que cet accès va être la chose qui va tout bouleverser, alors que dans le fond, c'est surtout une opération en grande partie économique.
Cédric, encore un mot ?
Oui, non, je dois dire que par rapport au savoir, nous on pense que le savoir ne naît pas d'une accumulation, d'une mise en disponibilité de tout, mais qui passe avant tout par des médiations, et on pense que justement la culture Internet, la culture numérique qui se développe, elle détruit justement ces médiations, ces structures intermédiaires, elle les affaiblit. Donc dans le cas du livre, ça va être le rôle du libraire, le rôle de l'éditeur, voire même peut-être un jour le rôle de l'auteur, elle les affaiblit. Et nous, on pense qu'au contraire, c'est dans ces structures de médiation que se niche la culture, que se niche l'apprentissage, que se nichent les vrais projets, des projets éducatifs. Et donc elles naissent dans des structures collectives, et qu'une société est avant tout un ensemble d'organismes de médiation, avant tout d'être un agrégat d'individus, seul face à une masse de connaissances avec leurs prothèses technologiques entre les mains.
Grèche.
Moi, je voudrais un peu élever une voix un peu dissidente par rapport à ce qui est dit. En tous les cas, interrogative, je n'ai pas une opinion très, très ferme. Mais d'abord, la liquidation de l'éducation populaire, franchement, elle a commencé dans les années 50 et bien avant l'arrivée d'Internet. C'est vrai aussi que face au livre, on est tout seul. Je veux dire, que le livre soit imprimé ou d'un écran, on est tout seul. Je veux dire, qui ait besoin de l'éducation populaire, moi je n'ai aucun doute là-dessus, et que notre société manque justement de structures collectives d'éducation, je suis d'accord. Mais je ne suis pas convaincu que le fait d'avoir un livre sous forme électronique soit une telle révolution et un tel changement par rapport au livre papier. La disparition des éditeurs, ça fait des années qu'on la constate, bien avant Internet. Il y a la multiplication des titres en France. Moi, comme auteur, je sais très bien, les éditeurs ne relisent plus les manuscrits, on publie de plus en plus de titres qui ne sont pas relus. Ça, c'était bien avant Internet. Alors bon, d'une certaine manière, la numérisation de l'ensemble du savoir est une avancée, parce que ça nous donne accès à tous, à énormément de choses. Que ça ne règle pas le problème de l'éducation populaire, je crois que c'est tout à fait vrai. Mais je pense que, je serai moins radical que les auteurs, en tous les cas.
La base est chez Suisse.
On va continuer avec Alain Grèche, on va sur un tout autre terrain, celui du Proche-Orient. On a eu, Alain Grèche, au mois d'août, dans le Monde diplomatique, un papier sur le Proche-Orient vu d'Afrique du Sud. On a compris tout de suite le rapprochement, c'est celui de l'apartheid. Et là, vous revenez là-dessus, enfin, le Monde diplomatique revient là-dessus, conforté par des comparaisons entre la situation en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, et ce qui se passe au Proche-Orient, des comparaisons faites par des gens comme Jimmy Carter, Nelson Mandela et récemment encore l'archevêque Desmond Tutu. Donc là, on a un papier qui nous dit mais le boycott a commencé envers Israël, y compris des désinvestissements.
Il y a trois formes de sanctions, disons, à l'égard d'Israël, demandées par un mouvement qui est en train de se développer. C'est le boycott, c'est-à-dire le refus d'acheter des produits, notamment ceux qui viennent des colonies israéliennes. Le désinvestissement, c'est-à-dire, ça c'est une chose à laquelle en France on n'est pas tellement habitué, mais qui pour l'Afrique du Sud a joué un très grand rôle, à la suite de mouvements populaires, un certain nombre de fonds d'investissement, américains notamment, et britanniques, se sont désinvestis de l'Afrique du Sud, parce qu'il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça a eu des conséquences économiques et politiques importantes. Et les sanctions.